1 Timothée 1:18, Paul parle à son enfant Timothée.
This is the word that came on Timothy when they spoke to him and commissioned him.
La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet.
The word has come to our hearts.
La parole est venue à notre cœur.
This, so that by them, these prophecies,
afin que par elles, par ces prophéties, par ces paroles vivantes qui sont venues à ton cœur, afin que par elles tu combattes le bon combat. Et c'est la petite phrase que j'aimerais que vous vous rappeliez. Combattre un bon combat. Combattre un bon combat. Paul a dit à Timothée qu'il devait combattre le bon combat. Qu'est-ce que cela signifie ? L'amour gagne. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Des paroles d'amour sont venues à notre cœur et nous avons cru en lui. Quand nous avons cru en lui, on a réduit à néant le programme de Satan. On a combattu le bon combat par l'amour, en croyant, en recevant. Et vous allez remarquer dans votre vie, dans les semaines et les mois à venir, que quand Dieu prophétise, ça a deux significations. Ça peut vouloir dire prédire pour le futur, mais ça peut aussi vouloir dire amener la Bible à vous. C'est l'instruction, la compréhension, les racines, et ensuite le fait de porter du fruit. Donc juste pour terminer, ce qui se passe, et vous avez remarqué que ça se passe, et ça s'est déjà produit et ça nous arrive, on est sur la scène. On reçoit des paroles dans nos cœurs, on reçoit des conseils du pupitre. On reçoit le dimanche matin quand on se lève. Le mardi soir, dans nos échecs, le monde n'échoue jamais, mais nous échouons. Le monde n'échoue jamais. Mais nous combattons un bon combat, parce que c'est le diable qui voudrait que nous arrêtions et que nous devenions introspectifs ou au contraire occupés des choses extérieures sans sagesse. Mais c'est Dieu qui a prophétisé, qui a parlé. Et par ces paroles, nous pouvons avoir une direction divine dans notre foi. Et nous pouvons combattre de façon spirituelle dans un monde obscur. Et c'est un bon combat. C'est un bon combat. J'aime bien ça. Donc ça peut peut-être être utile pour vous ce soir. De garder ça dans vos cœurs et dans vos pensées dans le Seigneur. Amen. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, et ouvrir vos Bibles en Apocalypse 13, versets 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Est-ce que les agneaux ont des cornes? les mâles probablement, puisque c'est des petits boucs, donc c'est logique qu'ils aient des cornes. Et c'est quelqu'un ici qui connaît les animaux, est-ce que j'ai raison? Je crois que j'ai raison. De la même façon que les taureaux ont des cornes, et donc probablement les veaux ont des cornes. En fait, je ne sais pas. C'est juste que ça vient de me venir à l'esprit. Je veux dire, j'ai déjà lu ça avant et je me suis posé la question. Donc je me disais que peut-être tu aurais la réponse. Tu as peut-être raison d'ailleurs. Qui est cette personne qui est comme un agneau? Qui est la personne qui est comme un agneau et qui marche et qui parle comme un dragon dans ce verset? Et je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ben maintenant, on va échanger nos micros. Est-ce que tu as fini ton message? Est-ce que c'est pas quelqu'un de toujours amusant? Pour commencer le message, et si on avait un peu, si on s'amusait un peu. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Bon. C'était bien, ça va. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Je prie, Père, que cette parole parle à une assemblée remplie de joie, qu'on puisse sentir ta joie dans nos vies, mais aussi, si certains d'entre nous sont chargés, ont des fardeaux et ont besoin de conseils, d'encouragement, de définition, d'édification. On te prie, Seigneur, que tu sois pour nous une mine d'or qu'on découvre dans la parole de Dieu et qu'on puisse creuser dans cette mine et y trouver un trésor qui ne passera jamais. Nous nous sommes assemblés en ton nom, Jésus-Christ, en ton nom, Seigneur. Toutes ces précieuses personnes ici ce soir, dans la foi, remplis nos cœurs de joie, de vérité, d'édification au nom de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Même endroit. On va lire plusieurs petites choses séparées, puis après on va les mettre ensemble. Donc relisez avec moi Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Le dragon est l'animal le plus puissant dont il est question dans la Bible, à part le Léviathan. Le Léviathan parle de notre vieille nature pécheresse en Job 40-41. Mais le dragon, c'est l'Antichrist. Il a trois parties. Le faux prophète, la bête et le dragon. Le dragon représente le diable. Et il parle comme un dragon, c'est-à-dire comme le diable. Il parle comme le diable. Il avait du pouvoir, et il avait tellement de pouvoir sur la terre, verset 12. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Un bref commentaire. Je crois que les livres Harry Potter, la série Harry Potter, de façon surnaturelle dans le système de ce monde. Il y a derrière tout ça l'idée de faire évoluer notre société dans un sens de spiritualité. Et les gens commencent à accepter beaucoup plus facilement l'idée de sorcellerie et aussi la guérison d'une blessure mortelle. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Donc je crois vraiment que la terre, je vais essayer de le dessiner ici, est en train d'évoluer dans une direction. Elle est littéralement en train d'évoluer. Et le monde entier, combien, quelle partie ? Le monde entier. Apocalypse 12, verset 9. Le monde entier est séduit. C'est très puissant. Et il parle et c'est puissant. Le monde entier. Mais nous avons trouvé une mine d'or. Regardez en Job 28 avec moi. Et aussi en Ecclésiaste. J'ai pensé à ça tout l'après-midi. Et même toute la journée. J'ai tellement de choses à dire. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais j'ai quelque chose dans mon cœur. En Ecclésiaste 6, 12. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans cette vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Dieu. Est-ce que c'est une bonne réponse? Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Quelle est la réponse? Dieu. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Qui écrit ça? Salomon. Est-ce qu'il ne savait pas ce qui est bon pour l'homme? Et après, il a écrit Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Salomon, dans sa vie, s'est éloigné vers le sud. En 1 Roi 11, versets 2 et 3, on voit qu'il s'est écarté. On voit ce qui s'est produit. C'est une histoire incroyable. En Ecclésiaste, c'est un homme qui est un croyant et qui pose maintenant ces questions auxquelles il devrait connaître la réponse. Mais il ne sait plus quelle est la réponse à ces questions. Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin du livre, chapitre 12, versets 13 et 14. La crainte de l'Éternel. On revient au chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre. Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? On ne peut pas. On ne peut pas dire ce qui va arriver après nous. Ce qui vient après la vie, c'est la vie éternelle, la résurrection, l'ascension. Mais l'obscurité qui vient dans l'âme sous le soleil, et c'est le thème, sous le soleil, on trouve ça 28 fois dans l'Ecclésiaste. Qui peut dire? Mais à cause du fait qu'on est né de nouveau, on a été transféré dans un autre royaume. Et dans ce royaume, on connaît maintenant la réponse à ces questions. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme dans la vie? C'est de suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme dans la vie? C'est de croire et de recevoir de Dieu, de marcher par la foi, d'être rempli par l'Esprit. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Quelqu'un m'a dit au gymnase cet après-midi, alors qu'on se croisait, tu peux nous le redire, Ray? Il a dit, je lui ai dit, tout va bien. Il a dit, ça va tellement bien. C'est encore mieux que quand mon père m'emmenait pêcher quand j'étais enfant. J'ai juste envie de dire, Seigneur, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis tellement encouragée d'entendre ça. On a trouvé une mine sur cette terre. Regardez en Job 28 avec moi. Verset 1. Certainement, il y a pour l'argent une mine. Les mineurs recherchent des mines de métal précieux dans la terre. Ils creusent dans les montagnes et ils peuvent passer des années. C'était le cas en tout cas autrefois, puis maintenant ça va plus vite avec la technologie. En tout cas, ils recherchent des mines de métal précieux qui courent sous la montagne. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. Elle est cachée. Un peu plus loin dans le chapitre, il est dit « Les oiseaux ne peuvent pas la trouver. Les hommes ne peuvent pas la trouver. » Il y a un passage, verset 7, un sentier que même l'oiseau de proie ne connaît pas et que l'œil du vautour n'a point aperçu. C'est de belles images à propos du fait de trouver la Bible. Chapitre 28 de Job, c'est à propos de trouver la sagesse. C'est comme une mine sur la terre et il faut creuser pour la trouver. Et on ne peut pas la trouver. C'est comme un homme qui dit « Qu'est-ce qui est bon pour l'homme ? Qui sait ce qui est bon pour l'homme ? La vie est vaine. Qui sait ? Qui peut répondre à ma question ?» Et nous pouvons dire, dans nos cœurs, au moment où vous avez accepté Christ dans votre vie, Christ est venu dans votre vie et il vous a donné une mine d'or et d'argent. Luc 10, regardez avec moi. Verset 23. Il se tourna vers ses disciples et leur dit en privé, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Et il parle à des gens comme vous et moi. Je suis vraiment béni par le fait que Dieu parle aux âmes qui ont faim. Et je suis tellement béni par les gens simples, communs, mais comme vous et moi, mais qui ont faim de lui. Et c'est eux qui le délivrent. Quand on frappe, il nous ouvre. Et quand on dit « Seigneur, j'ai faim, j'ai soif », il est là. Je suis tellement encouragée par les nouvelles qu'on entend du Pérou. On a une missionnaire qui vient de rentrer ce soir. Oui, on peut l'applaudir. Bon retour. Et vous savez, tous les emails, toutes les communications qu'on reçoit, les mots personnels. J'ai entendu une très belle histoire à propos d'une missionnaire en Afrique au 19e siècle. Elle était seule et elle espérait se marier. Et il y avait un homme qui était missionnaire sur la côte en Afrique. Son nom, c'était Charles Morrison. Et ils se sont sentis appelés à se marier l'un avec l'autre. Et l'organisation des missions ne voulait pas que lui quitte l'endroit où il était. Et elle était au centre de l'Afrique. Et elle était seule. Et elle a dit... Et l'organisme des missions lui a dit, tu dois le rejoindre lui. Et elle a dit, comment ? Et laisser ces gens ? Les gens là-bas ont entendu la parole. Et ils ont 10 fois plus de missionnaires que là où je suis moi. Je ne peux pas laisser cet endroit. Je ne peux même pas imaginer ça. Je ne peux même pas envisager ça. et je pensais à son engagement. D'où cela venait-il? Comment cette missionnaire a-t-elle pu dire « Ma mission est plus importante » En fait, elle a écrit à l'organisation des missions et a dit « Vous devriez envoyer quelqu'un d'autre parce que je suis seule. » Mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Et elle savait qu'elle avait un appel. Et elle vivait dans son appel. Et son témoignage était qu'elle a... Son témoignage, ça a été qu'elle elle a trouvé que Dieu a pourvu. Il y a une mine d'or quelque part sur la terre et qui l'a trouvée? Et je pensais aux anges. Les démons sont comme des oiseaux. Et ils ne peuvent pas trouver ce qu'on trouve en creusant dans cette terre qu'est la vie. Quand on vit dans nos difficultés et qu'on trouve Dieu dans nos difficultés, on trouve une mine d'or. Le fait que notre foi est plus précieuse que l'or qui périt, mais elle est comme l'or. Quand on trouve la Bible et Jésus se tourne vers les disciples, il se tourne vers cette petite bande de gens sans importance et il leur dit, je vous le dis, vous êtes au centre de l'univers en ce moment. Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes au milieu de son œuvre. Vous êtes bénis, bénissons vos yeux de voir les choses que vous voyez. Je vous dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. On est des prophètes et des rois aujourd'hui. Non, il y a encore des prophètes et des rois aujourd'hui. On lit à propos d'eux dans les magazines où on en entend parler à la télé. Les rois, les prophètes, les gens connus du moment. Mais ce qu'ils disent, c'est comme ce qu'on trouve dans l'Ecclésiaste. Qui me montrera ce qui est utile dans la vie? Qui me montrera le chemin? Quelqu'un, c'était un golfeur professionnel. Il était jeune. Et sa petite amie l'a abandonné. Je ne sais pas quel âge, il avait peut-être 28 ans. Sa petite amie l'a abandonné. C'était un homme qui gagnait des millions de dollars. Et il a tout laissé tomber. Et il est parti faire du snowboard dans le Colorado. Et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il a fait ça, et quand il a fait, c'était fini. Il n'a trouvé aucune mine d'or. Il n'y avait aucun trésor là. Il n'y avait pas de Christ. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de sagesse. Mais si vous demandez à cette missionnaire en Afrique, dans ses difficultés, elle pourra vous dire qu'elle avait de la joie dans son cœur. Elle avait des réponses pour sa vie. Elle avait une certaine sagesse, un chemin, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et c'est une attitude, comme on a dit mercredi dernier, une attitude d'écouter encore plus et encore plus. Luc 10, 38 à 41. Écoutez plus et cela ne nous sera jamais ôté. Beaucoup de rois et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais quand on va à l'église, on entend ça. Quand on ouvre nos Bibles, surtout ne vous découragez pas de lire votre Bible. Ne vous découragez pas pour vos dévotions en famille. Cet après-midi, j'ai eu mes petits-enfants à la maison. Ils viennent chaque jour pour une heure ou deux après l'école, jusqu'à ce que Bethany vienne et vienne les chercher. Parce qu'elle est à l'école. Et j'ai joué avec eux, j'ai parlé avec eux. Puis je leur ai dit, et si on avait une dévotion familiale? Ils étaient en train de jouer à un jeu vidéo et ils m'ont regardé en se demandant, vraiment? Et juste spontanément leur donner une parole d'amour, une parole de direction, une leçon toute simple, en espérant qu'un jour ça pourra les aider, qui pourront comprendre Juste 3 minutes, une parole de sagesse, une parole de conseil, une parole d'amour, un mot tendre d'encouragement, aussi pour nos épouses, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos frères et sœurs. On est préparé parce qu'on a trouvé l'or dans la terre. Et les anges ne peuvent pas le trouver. Ils chantent à propos de ça. Ils viennent et ils nous visitent, ils viennent, ils nous voient, ils nous écoutent. 1 Pierre. Ésaïe 3:9. Regardez leurs visages, regardez leur contenance. On les voit dans leurs difficultés, dans leur découragement, dans leur douleur. Et on les voit être délivrés par Christ, qui n'est pas un agneau vide qui parle comme un dragon, mais qui est un vrai agneau, pas un agneau superficiel, mais un vrai agneau. Un vrai, sans cornes. Les cornes parlent de puissance. Christ sans puissance. Vous pouvez prendre un agneau. Ils sont tout petits. Et vous pouvez juste... Si vous vous asseyez dessus, vous risquez de le tuer. Vous pouvez le pousser. Avec une seule main, vous pouvez pousser un agneau et le faire tomber. Ils ne sont ni puissants ni forts. Notre agneau. Il nous parle. Il nous conduit et il nous porte tout le long du chemin, de l'enfer vers le ciel, depuis le tas de fumier jusqu'au trône. Et la mine d'or, c'est que nous sommes sauvés. J'ai vu un message d'un grand homme de Dieu, en tout cas je croyais, qui disait « on ne peut jamais être sûr d'être sauvé ». 1 Jean 5:11. Pourtant, il est écrit, ces choses sont écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous sachiez que vous ne vivez pas une vie vaine. Mettez votre trésor dans le ciel. Mettez votre trésor dans le ciel. Et c'est choquant de voir à quel point la vie va passer comme de la poussière. Les désirs des hommes sont consumés et ils s'en vont tellement vite. Et c'est une vie vaine et vide. Mais c'est incroyablement merveilleux quand nous vivons notre vie comme une vie de foi. Et alors on gagne. Et Jésus leur a dit, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu les démons s'enfuir et les scorpions sous vos pieds? Et ils disent, oui, on a vu ça, on s'est rendu compte qu'on était au centre de quelque chose d'incroyable, une école incroyable qui ne va jamais s'arrêter, une école de Dieu. Le monde va dans une certaine direction. Et je crois aussi en Jérémie 23. Il y a une religion à la mode. On va regarder là-bas pour conclure. En Jérémie 23, c'est un verset unique, c'est pour ça que je veux le partager avec vous. Chapitre 23, verset 30. « Je suis contre les prophètes, dit l'Éternel, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. J'en veux aux prophètes. Ils prophétisent des songes faux, verset 32. Ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Il y a trop de légèreté dans leur message. Et quand Dieu Je partageais avec mon fils aujourd'hui. Il avait faim et je lui ai dit, tu sais, parfois, tu as faim et tu attends simplement et tu manges plus tard. Et tu contrôles tes désirs. Tu as faim, mais tu attends. Et je lui ai raconté une histoire. et je partageais à propos de ça avec lui. On ne peut pas toujours avoir les choses qu'on veut, et on ne peut pas toujours avoir les choses qu'on veut tout de suite. Et c'est juste une leçon très simple, mais je dis ça avec quelque chose à l'esprit. Le message de la parole, c'est que cette vie est à propos de vous, c'est à propos de ce que vous voulez, c'est à propos du fait que vous ayez ce que vous voulez, mais ça, c'est une vie vaine. C'est le message que le diable utilise pour entraîner le monde entier dans la séduction. En 2 Pierre 1, 4, ce qu'il veut avoir, c'est notre vieille nature pécheresse pour pouvoir nous contrôler par les gens, par nos désirs, ou par notre absence de désir, ou par nos convoitises, ou même par la satisfaction de nos convoitises. Mais ça n'est pas satisfaisant pour moi. Et c'est comme ce qu'on voit en Ecclésiastes 6, verset 12. Qui peut me dire ce qui est profitable sous le soleil? Qui peut être mon conseiller? Mais il n'y en a aucun. Ce sont tous des faux prophètes à Hollywood, à la télé, tout autour du monde. Il y a des gens qui parlent dans le monde entier. Et au verset 33, il y a des choses à la mode. Jérémie 23, 33. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, vous savez ce que dit Dieu? Vous savez ce qu'ils disent? Votre Dieu, c'est pas un vrai Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette menace de l'Éternel? On ne sait pas ce que c'est complètement fou. Parce que c'est à la mode de dire quelle est la menace de l'Éternel? Peu importe la menace de l'Éternel, ils s'en fichent complètement, ils sont complètement vides, superficiels, et ils se fichent complètement de l'Éternel. Quelle est la menace de l'Éternel? Tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Tu leur diras, quelle est cette menace? Et Jérémie devait leur dire, quelle est la menace de l'Éternel? C'est que l'Éternel vous rejettera. C'est historique et ça va se terminer. Vous allez être déporté à Babylone pour 70 ans. C'est ça la menace de l'Éternel. Vous la voulez? C'est ça la menace de l'Éternel. C'est ça aussi la menace de l'Éternel. Vous risquez d'aller en enfer. Qui entend ce message? Il y a un jugement. Dieu est sérieux. Il est sérieux. C'est la vérité, c'est la réalité. Et Jésus se tourne vers les disciples et il leur dit, il y a tellement de gens faux sur cette terre et ils voudraient tous voir et entendre les choses que vous voyez et que vous entendez. Mais vous, vous les entendez parce qu'il y a quelque chose qui est réel en vous. Je vous ai appelé, je vous ai choisi. Vous êtes des gens simples, des gens petits, mais vous êtes ceux à qui Dieu a donné sa grâce. Vous êtes ceux qui ont été oints, le petit troupeau, mon peuple. Vous êtes ceux qui reçoivent et qui grandissent. Et vous avez trouvé une mine d'or. Et c'est incroyable, les anges ont désiré connaître les choses que nous connaissons. Les démons n'ont jamais voulu imaginer qu'ils puissent nous le révéler à nous, ces enfants. Il a gravé sa parole dans nos cœurs. Il nous a touché par la prière. C'est Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et donc on a le monde et nous on est un petit troupeau. On n'est pas de ce monde. Peu nous importe. On est tellement fiers de faire partie du peuple de Dieu partout. Et on pense partout, en dehors de notre ministère, on voit des preuves de l'œuvre de Dieu de partout. On voit que Jésus est là avec le Saint-Esprit. On reconnaît son œuvre. On le reconnaît ici, on le reconnaît là. On reconnaît la mine d'or. On reconnaît les réponses, les paroles en saison. C'est le corps de Christ. C'est merveilleux. peut-on dire? Je voudrais juste dire on pourrait vouloir dire ne nous le reprends pas. Et c'est comme si Dieu nous disait mais vous plaisantez. Il a dit à David, tu as un cœur après Dieu, en Actes 13, 42. Ézéchiel 36, 26. Il nous a donné un cœur qui soit après Dieu. Nous avons reçu la parole. Comme Jérémie a dit, je ne peux pas parler, je suis un enfant. Et le Seigneur lui dit, ne dis pas ça, j'ai mis ma parole dans ta bouche, chapitre 5. Et tu parleras aux gens et ta parole dévorera les gens. Et vous pouvez parler à ces gens, n'aie pas peur d'eux. Mange le rouleau. Et il a mangé le rouleau, il a été doux dans sa bouche et amer dans son estomac. Ça a été un délice à recevoir et après ça a amené des conséquences lourdes dans sa vie et dans son ministère. Le monde va dans un sens, dans une direction, et nous on va dans une autre. Et il y a une grosse différence entre les deux. Remarquez la différence, reconnaissez-la, réjouissez-vous-en, glorifiez-vous dans le Seigneur, aimez les gens, servez-les, édifiez-les. Et quand vous échouez, tombez dans la différence. Dites, je suis différent, je tombe dans la grâce de Dieu. Une dernière chose. David a commis l'adultère avec Bathsheba et son enfant est mort. Ça a été un péché terrible. Et il a souffert et le bébé est mort. Mais finalement, il a épousé Bathsheba. Et devinez qui a été leur fils, Salomon. Et de tous les fils de David, qui est devenu le roi? Salomon. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut nous dire que quand il pardonne et il oublie. Quand il dit, je vous ai pardonné, j'ai oublié vos péchés, c'est fini, ils sont partis. Et il a pris Bathsheba et il a fait d'elle la mère du roi d'Israël. C'est ça la grâce. Et quand on a des difficultés, tombons dans sa grâce et dans sa vérité. Et dans cette mine d'or qui traverse la terre et que personne ne voit, que personne ne peut trouver, si ce n'est s'il craint Dieu et s'il l'honore. Et qu'on ne soit pas seulement des gens qui écoutent, mais aussi des gens qui font, qui agissent, qui mettent en pratique la parole. Priez avec moi, s'il vous plaît. Si vous êtes ici ce soir et que vous voudriez accepter Christ dans votre vie, si vous aviez l'habitude d'aller dans des bars, vous n'avez plus besoin de continuer à y aller. C'est beaucoup moins cher de venir à l'église et c'est bien meilleur pour la santé. Pasteur Love, regardez, il a 86 ans, on dirait jamais. Regardez comme il a l'air jeune. Il est écrit que la force de Moïse n'avait pas diminué, pourtant il avait 140 ans. J'étais en train de prier, excusez-moi. Donc si vous aviez l'habitude d'aller dans les bars, n'y allez plus, c'est fini. Et si vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce que c'est buvez et soyez mariés parce que demain vous mourrez? C'est pas du tout ça. On peut vous dire, l'homme n'a pas été fait pour aller dans la tombe, mais pour s'envoler vers le ciel. Dieu ne nous a pas fait pour nous envoyer en enfer. L'enfer est une réalité. Il a été fait pour le diable et ses anges. et les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes périssent. Mais Christ est venu pour nous sauver. Regardez-le sur la croix. Regardez à la tombe vide. Regardez à son amour pour vous, ses bras grands ouverts. Regardez Christ en train de marcher entre les chandeliers. La réponse, le chemin, la vérité, la vie. On n'a personne d'autre que Christ. Vous qui écoutez sur Internet, il n'y a personne nulle part sur cette terre comme Christ Jésus. S'il vous plaît, dites-lui, Jésus-Christ, je crois en toi, j'ai confiance en toi, je veux être rempli par le Saint-Esprit. Marchez par la foi comme les lépreux en 2 Rois 7. Ils sont allés dans le camp des Syriens et quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé des trésors, une mine d'or dans le désert. Christ, Dieu, le Dieu vivant. Au nom de Jésus, dites cette prière. Croyez-le. Et pour nous ici ce soir, utilise ta parole, Seigneur, pour nous faire apprécier et t'adorer chaque jour, pour réveiller nos cœurs chaque jour, pour t'obéir de façon radicale dans notre foi, de ne pas nous plaindre dans nos difficultés, mais de trouver la mine d'or qui est dans cette terre et de nous en réjouir et de vivre de ça. Au nom de Jésus-Christ, Amen.